En ce 26 mai à Rencontre spirituelle, j'ai pensé vous parler 2 mois à l'avance de Sainte-Anne, puisque ça tombe durant les vacances. En effet, sa fête est le 26 juillet. Et Sainte-Anne, eh bien, c'est la grand-mère de Jésus, alors je dédie donc cette émission à toutes les grand-mères qui m'écoutent. Sainte-Anne, mère de la très sainte Vierge. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. C'est la fête aujourd'hui de Saint-Philippe Néri. C'est un grand saint dont je vous ai parlé durant 1 heure il y a 2 ans. En 1995, le 26 mai, l'émission avait eu un succès énorme, je pense. Parce que c'est un saint très attachant que Saint-Philippe Néri. C'est un saint qu'on aime spontanément. Un prêtre plein de joie qui a vécu il y a déjà des siècles. Et dont je vous parlerai sans faute l'an prochain. J'y reviendrai. Sainte-Anne, de nos jours, est très aimée, très priée depuis quelques siècles. Et on se tourne alors vers le Nouveau Testament pour savoir ce qu'il y a sur elle. On cherche, puis on ne trouve absolument rien. C'était pas dans l'idée des évangélistes de nous parler des parents de la Sainte Vierge. Et même pas, on dirait, de la Mère de Dieu elle-même. Il n'y a rien, quelques petites choses, hein, vous le savez, au moment de la naissance, quand Marie perd Jésus au temple, et puis elle le cherche, puis elle lui dit, ne saviez-vous pas, puis elle dit à son fils, ne sais-tu pas, etc. Puis, aux noces de Cana, au pied de la croix, et très très peu de mentions. La tâche, au fond, des évangiles, c'était de nous parler du Christ lui-même, de sa vie, de ses miracles, de ses enseignements. C'est ce que dit le Père Lévesque dans un ouvrage sur Sainte-Anne, qui est paru à Sainte-Anne-de-Beaupré, qui est très bien fait. Mais alors, quelle est la source où aller chercher des renseignements sur Sainte-Anne et son mari, le grand-père de Jésus, Saint-Joachim? Ça nous vient d'écrits très anciens. Ce sont les évangiles apocryphes. Je vous en ai déjà parlé des évangiles apocryphes, c'est publié. C'est publié aux éditions du Cerf, ça a été publié en 75, moi j'ai l'édition de 75, mais je pense que c'est toujours publié. Et c'est un petit livre qui n'est pas très gros, les textes sont choisis et présentés par Daniel Rops. Alors on peut tout lire ça, vous avez des lettres, des évangiles apocryphes de l'enfance, et puis toutes sortes de choses assez étranges qui sont amusantes à lire, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre, mais c'est quand même intéressant. Parce que les évangiles apocryphes nous ont transmis, d'une façon douteuse, sans doute, beaucoup de détails au sujet de Sainte-Anne et de Saint-Joachim. Ce sont des évangiles, donc, qui ne sont pas dans les évangiles reconnus par l'Église, mais ce sont des évangiles qui datent du 2e siècle, oui, un peu plus tard même. Alors, leur nom, Anne et Joachim, leur vertu, leur prière, puis toute cette attente prolongée d'un enfant, parce qu'ils ont eu un enfant sur le tard, eux autres. Et puis, ils ont fait un vœu de consacrer cet enfant dans le temple. Et Marie, c'est pour ça que Marie est présentée au temple plus tard, hein, dans le temple de Jérusalem. Puis, il y a même, à un moment donné, dans un de ses évangiles, l'apparition d'un ange qui leur annonce la naissance de Marie. Je vous raconte les légendes mélangées avec ce qu'on peut dire qui pourrait être vrai et qui est probablement vrai, afin de pouvoir comprendre ce que c'est que cette grand-mère de Jésus, qui est si célébrée à Sainte-Anne-de-Beaupré, ici au Québec. C'est le plus grand lieu de pèlerinage dédié à Sainte-Anne au monde, plus important que Sainte-Anne-d'Orée en Bretagne. Alors, en puisant dans le proto-évangile de Saint-Jacques, ou dans l'évangile du pseudo-Matthieu, ou encore dans le livre de la naissance de Marie et de l'enfance du Sauveur, on trouve les éléments nécessaires. Ce sont les 4 sections des évangiles apocryphes qu'on peut se procurer en librairie. Je vous recommande pas nécessairement de lire ça, c'est mieux de lire les vrais évangiles qu'on a dans la Bible. Alors, il est vrai que l'Église ne croit pas que ces livres ont été inspirés par le Saint-Esprit. On se rend compte d'ailleurs à la lecture que beaucoup de récits contiennent des légendes. Et puis, au fond, tout ça n'a qu'un sens plutôt figuré. Mais les origines de ces écrits sont quand même importantes à considérer. D'ailleurs, les orthodoxes, les coptes, les utilisent dans leurs églises. On voit ça dans le rite grec, le rite syrien, le rite copte de nos frères séparés. Et même de nos frères qui sont de ces rites-là, eh bien, au jour de la fête de la Sainte Vierge, ils s'en servent. Ce sont ces apocryphes qu'ont utilisé plusieurs des pères de l'Église d'Orient, les pères de l'Église, disons, qu'on appelle aujourd'hui l'Église orthodoxe ou l'Église orientale. Et puis, c'est une source principale d'information sur tout ce qui a trait, donc, aux parents de la Sainte Vierge, Joachim et Anne. Et puis, la naissance de Marie, ses premières années. Nous, les catholiques et les protestants, en somme, la grande Église d'Occident, malheureusement divisée, avec l'Église anglicane aussi, bien, l'Église d'Occident était lente avant les schismes, avant 1520 puis 1530, a été lente à admettre la valeur de ses sources. Mais à partir du 13e siècle, surtout après que ce fameux moine, le Jacques de Voragine, qui a écrit un ouvrage sensationnel, qui s'appelle « La légende de Ré, c'est la vie des saints », mais a inspiré des apocryphes, inspiré des légendes, mais la vie de Sainte-Anne a commencé à être racontée. Jusque dans le détail, et Sainte-Anne est vite devenue l'une des saintes les plus populaires. C'est à cause de Jacques de Voragine, ce moine. Ça, on trouve ça en livre de poche, hein. Et nous n'avons retenu donc de tout cela que ce qui pouvait s'harmoniser là, avec la substance des évangiles inspirés, et surtout les récits qui sont suggérés par ce qui nous semble intéressant pour nous aujourd'hui, 2 mois avant la fête de Sainte-Anne, pour se préparer. Donc, 50 ans avant la naissance du Christ, vivait en Judée un homme et une femme, qu'on dit être de grande vertu, et qui s'appelait Stolan, et Émérancienne, c'était celle de juifs fervents qui étaient fidèles aux prescriptions de la loi de Moïse, des vrais juifs. Et la valeur qu'ils imploraient plus que tout autre du Seigneur, c'était de compter parmi leurs descendants le Messie, celui qu'on appelait le désiré des nations, celui dont les patriarches et les prophètes avaient parlé. Puis, ils l'attendaient prochainement, hein, et bientôt une petite fille leur est née, à laquelle ils ont donné le nom d'Anne. Anne, mot qui signifie dans leur langue « toute gracieuse »,« toute belle ». Ça veut dire « grâce », pas « grâce » avec 2 S, évidemment, mais « grâce » avec un accent circonflexe. Et les dérivés de Anne, je vous les signale en passant, ça peut vous intéresser. On les trouve d'ailleurs dans d'excellents livres, en particulier « Choisir un prénom » paru au Centurion, avec 50 pages d'introduction sur les prénoms. Il y a des tables à la fin qui sont très intéressantes, puis même un calendrier. Mais il y en a un encore plus intéressant peut-être pour nous, c'est des prénoms chrétiens, plus de 250 prénoms dans la tradition chrétienne, qui est paru chez Novalis. Et je lis que les variantes du nom Anne sont Anna, Annie, il y en a une Annie à Radio-Canada, Anita, il y en a une aussi qui vient de temps en temps. Anaïs, Annabelle, Annette. Nous avons une Annette à Radio Ville-Marie. Nanette, Annick, Annie. Deux fois Annie. Marianne, Marianick, Anne, puis Nancy. Nancy est là. Et Anouchka, puis Anouk. Et il y a des analyses historiques sur les prénoms dans ce livre publié chez Novalis, des prénoms chrétiens. Et alors donc, toutes ces variantes sont intéressantes, mais ce n'est pas tout. Alors, dès les premières lueurs de sa petite raison à la petite Anne, on a dit qu'elle a commencé à vivre de façon particulièrement gracieuse selon son prénom. Il est probable qu'Anne n'avait pas plus de 14 ou 15 ans lorsqu'elle a épousé Joachim. Comme elle, de la maison royale de David, et c'est à cet âge que les jeunes juifs se mariaient d'ailleurs à cette époque-là. On sait que Marie aussi a eu son enfant Jésus vers l'âge de 15-16 ans. Ça nous semble très jeune, mais c'était comme ça à cette époque. Et c'est à cet âge que les jeunes juives donc se mariaient, mais dès qu'elles étaient aptes au mariage, bien, elles étaient choisies comme fiancées, puis comme épouses. Il n'était pas rare qu'une femme de 30 ans soit déjà grand-mère, hein? Et avec des sentiments de joie puis de tristesse à la fois, ben, la pauvre petite Anne, déjà mariée, a quitté la maison de ses parents pour suivre son mari. Et puis elle chercha le rang de rue, on peut se l'imaginer en l'entourant d'amour et de dévouement. Têtu. Ils étaient tous deux trop généreux, paraît-il, par nature, pour ne songer qu'à leur bonheur à eux seuls. Une tradition nous dit qu'ils étaient assez à l'aise et distribuaient généreusement leur superflu. Ils faisaient trois parts égales de ce qu'ils avaient. L'une allait au temple de Jérusalem, l'autre aux pauvres, puis ils ne gardaient pour eux-mêmes que la troisième part. Alors, en ce temps-là, vivaient Anne et Joachim, mais ils étaient sans enfants, et la tradition nous dit qu'après 20 ans de mariage, ils n'avaient pas d'enfants encore. Et pour les Juifs, ils avaient le privilège de la maternité, là. C'était quoi? C'était une participation. C'est beau ce qu'ils ont, la foi juive. Et c'était notre foi il n'y a pas longtemps. Le privilège de la maternité puis de la paternité, c'était une participation aux bénédictions promises par le Seigneur à Abraham et à sa postérité. Vous vous souvenez, hein? Dans la Bible, quand le Dieu promet à Abraham une postérité qui sera comme les étoiles dans le ciel, comme les sables de la mer. Et en effet, par leur fécondité, bien, les époux juifs avaient chance d'être au nombre des ancêtres du Messie. Et nous, quand on a des enfants, bien, on a la chance d'être possiblement les parents d'un saint ou d'une sainte. Oui. Mais la maternité était pour les femmes juives la preuve la plus sûre d'une vie de fidélité puis de vertu. Et c'est pourquoi la pire honte pour une femme juive était d'être incapable de devenir mère. Ça rappelle le Québec, quoi, il y a 40 ans. Aujourd'hui, c'est si peu comme ça que c'en est triste. Et des fois, je ne peux pas résister quand je vois une femme avec un bébé ou qui est enceinte. Je ne peux pas m'empêcher de lui sourire et parfois de la féliciter délicatement, gentiment. C'est une telle épreuve qui a pesé sur le foyer d'Anne et de Joachim pendant 20 longues années. Et cela fait voir, par ailleurs, d'une façon absolument éclatante, le courage extraordinaire de ses époux, qui pendant 20 ans ont porté cette croix. Et puis un jour de fête, Joachim s'est rendu au temple pour y offrir un sacrifice au Seigneur. Puis là, le grand prêtre Ruben, dit-on, l'a repoussé durement, parce qu'il lui disait, vous êtes sans enfant, alors vous êtes indigne de vous présenter devant Yahvé. Tout ça, ça a humilié Joachim, alors il a pris chemin des montagnes, espérer que dans la solitude, et oui, il est comme le Christ, son petit-fils, il monte sur la montagne pour prier Dieu, pour lui demander une grande faveur. Et Dieu entend les prières d'Anne et de Joachim, puis un ange qui leur apparaît, dit-on. Et puis, il n'y a aucune trace dans la Sainte Écriture de ces événements extraordinaires, je vous le répète. Hein. Ça nous est rapporté par une ancienne tradition, tout ça. Ça ressemble d'ailleurs de très près à ce que la Bible elle-même nous raconte au sujet de l'autre Anne, la mère du prophète Samuel, et au sujet des parents de Jean-Baptiste aussi. Mais il s'agit ici de quelqu'un de plus grand que la mère d'un prophète comme Jean-Baptiste, de plus grand même que la mère de Samuel, etc. Il s'agit de Sainte Anne, mère de la mère de Dieu. Hein? C'est pas peu dire, c'est énorme. Et alors, ça faisait dire à Bossuet, c'est la conception de Marie qui s'est opérée en Sainte Anne. Elle est la source première et originale du sang de Jésus. Sang qui coule dans nos propres veines par les sacrements de l'Eucharistie, et qui porte le souffle vital à tous les membres du corps de l'Église, c'est-à-dire à tous les catholiques. C'est une drôle de conception, vous direz que c'est une conception mystique, mais c'est une très belle conception, cette phrase de Bossuet est merveilleuse. On pourrait continuer avec une prière à Sainte Anne. Sainte Anne, ce que j'aime le plus considérer en vous, c'est que vous êtes la mère de l'Immaculée Mère de Dieu. Dites-moi combien est grand le privilège qui vous a permis de concevoir la Mère de Dieu. Rien de tel n'était jamais arrivé depuis l'origine. Rien de semblable n'arrivera plus jamais à aucune autre femme, sinon à votre fille très pure, elle-même, qui concevra un jour le Christ très saint, à la fois Dieu et homme. Dieu dans sa personne. Dieu et homme, par ces deux natures. Enseignez-nous Bonne Sainte-Anne, que la raison pour laquelle votre fille a été préservée du péché de sa conception et pour laquelle, dès ce premier instant son existence, elle est devenue la personne la plus sainte du monde, c'est sa vocation à la maternité divine. Le Père l'avait déjà choisie pour en faire la mère de son Fils unique. Et à la lumière du mystère de la conception de votre fille, s'est opéré dans votre sein. Enseignez-nous le prix inestimable de la pureté, de la grâce, de la transcendance, de l'amour du Père envers l'humanité pécheresse, de la profondeur de sa miséricorde. Et dites-nous aussi combien beau est le mariage et combien sacré est la maternité chrétienne. Sainte Anne, Mère de Marie, menez-nous à votre fille. Elle nous mènera à son Fils, qui est aussi Fils unique de Dieu. Le Christ, lui, nous mènera à son Père, par les chemins de la foi, de l'espérance et de l'amour. Et au sein des ombres de notre foi et des faiblesses de notre cœur, que le Christ, dans son amour, nous conduise sur ses pas, le long de notre pèlerinage terrestre, jusqu'au jour où nous verrons le Seigneur face à face et où nous nous enivrerons de sa joie, comme vous. Ô Sainte Anne. Mais comme plusieurs de ses ancêtres, comme David lui-même, avant de devenir roi, Joachim, lui, époux de Sainte Anne, c'était un berger. Mais plus qu'un berger, c'était un éleveur de moutons. Il gardait ses troupeaux près de Nazareth dans les montagnes de Galilée. Il avait hérité de ses ancêtres, en plus de ça, d'une maison et d'une bergerie dans la ville de Jérusalem même, imaginez. Alors, comme les autres maisons de bergers dans la grande ville de Jérusalem, cette grande ville sainte, bien, celle de Joachim et d'Anne était située, savez-vous où? Dans la partie appelée Probatica, dit-on. Nom qui signifie, vous savez, la place du troupeau. Et ce quartier, construit tout près du temple, était réservé au commerce des brebis qui allaient servir là, pour le sacrifice offert au temple. Et on offrait des moutons dans ce temps-là à Dieu pour lui faire plaisir, disait-on. Et nous connaissons... Il faut pas se moquer de ça. C'était une façon de voir les choses. Et nous connaissons le district où s'élevait la maison de Sainte-Anne, et même son emplacement exact. D'après le témoignage de plusieurs pères de l'Église, c'est ce qu'on nous raconte, hein, elle était située près de la fameuse piscine appelée Probatica. Vous qui êtes allés à Jérusalem, vous avez vu ça? C'est là qu'a été guéri le fameux paralytique dont nous parle Saint Jean au chapitre 5 de son évangile. Vous savez, celui qui est couché à côté de la piscine et qui ne réussit pas à toucher l'eau juste après que l'ange fait bouger l'eau un peu, là. Puis il est guéri par Jésus, finalement. Et la maison de Joachim et d'Anne, bien, était simple. C'était d'usage en Palestine. Elle était en partie creusée, comment, cette maison, bien, dans le roc. Dans le roc, comme on le voit souvent là-bas, hein. Or, le roc, à cet endroit de la ville, s'élevait en forme d'amphithéâtre, vers la cité, puis l'autre partie de la maison était entourée d'un mur de maçonnerie. Hein. On a les témoignages qui attestent que Marie est née à Jérusalem. Saviez-vous ça? D'après la tradition encore. Oui, aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale, dans le sens que on part de texte et puis on essaie de recréer tout ça. Et alors, il remonte... les témoignages jusqu'au premier siècle de l'ère chrétienne, à une étude des documents, là, révèle que l'Église, qui est connue depuis le temps des croisades, là, il y a près de 1000 ans, sous le nom d'Église Sainte-Anne, et que l'on appelait autrefois cette Église Sainte-Marie de la Piscine Probatique, dont je viens de vous parler, ou encore Sainte-Marie de la Nativité, ou même là où la Vierge Marie est née, Sancta Maria Ubinata Est. Alors, cette église s'élève à l'endroit même de la maison qu'habitaient Anne et Joachim, non loin du temple de Jérusalem. Bon. À quelques centaines de pieds du temple de Jérusalem, presque à l'ombre de cet édifice magnifique, tout près de la piscine de Siloé, dont on entend souvent parler aussi, à l'intérieur d'une maison au mur blanchi, Une femme, un jour et dans les douleurs de l'enfantement et le moment de naître est venu. Moment tant désiré, après 20 ans, quand je vous ai dit de stérilité, alors Anne, épouse de Joachim, met donc au monde une petite fille, et on peut dire que l'heure la plus sainte, la plus heureuse depuis la création du monde vient de sonner, comme disent bien des auteurs, et bien des pères de l'Église. Pourtant, pendant que la vie continue tout autour dans la ville de Jérusalem comme si rien ne s'était produit, eh bien, l'univers lui-même est transformé aux yeux de Dieu par cet enfant qui vient de naître, Marie. Cette petite fille que Sainte Anne vient de mettre au monde est un être plus pur et plus saint que tous les cœurs des anges. C'est la femme qui bientôt, à 16 ans, sera la mère du Fils unique de Dieu. La joie que Sainte Anne ressent quand lui est présenté son petit bébé qui vient de naître d'elle défie au fond toute description. Il y a de très beaux tableaux que des peintres ont fait de ça, de ces scènes-là. Elle devine déjà, Sainte Anne, vaguement au fond de son cœur, que grâce à sa petite Marie, il lui sera donné d'être un jour la grand-mère du Christ. Et l'évocation de ce moment de la vie de Sainte Anne, où elle met au monde celle qui sera un jour la mère de Dieu, devrait tous nous réjouir, au fond, nous chrétiens, et même nos frères musulmans qui vénèrent, saviez-vous, la Vierge Marie, mère de Jésus. D'accord, ils ne croient pas à la divinité de Jésus, mais ils vénèrent Marie. Eh oui, ça peut vous surprendre. Quelques jours après la naissance du bébé, donc, ses parents lui donnent le nom de Marie. Et écoutez bien cela, toutes les femmes qui s'appellent Marie, et même les garçons qui s'appellent Jean-Marie, les autres hommes comme Louis-Marie qui porte ce nom, eh bien, Saint Bernard dit de ce nom de Marie, nom admirable, plus doux à la bouche que le miel, plus agréable à l'oreille que la plus discrète musique, plus délicieux pour le cœur que la joie la plus pure. Marie a commencé à grandir entourée d'anges, dit-on dans les vieux textes apocryphes, là, qui veillaient sur elle. Elle était enveloppée, pas évidemment, par la tendresse de sa mère Sainte Anne et de son père Saint Joachim, des parents qui s'acquittaient de cette tâche de dévouement, de vrais parents. Hein? Et les peintres ont très souvent et bien admirablement représenté que l'on a désigné du nom d'éducation de la Vierge. Je me souviens que dans la chambre de ma mère, il y avait une très belle gravure en sépia de Sainte Anne, de, si je me souviens bien, de Michel-Ange. À l'âge de 3 ans, la petite Marie a été conduite au temple par ses parents qui voulaient l'offrir au Seigneur. Dans le livre apocryphe qu'on appelle le livre de Jacques, on nous transmet le détail suivant, c'est assez pittoresque. Le grand prêtre Zacharie alla à la rencontre de l'enfant au moment où elle devançait ses parents dans le temple, c'est le texte. Il la prit et la déposa sur le 3e degré de l'autel, rempli de joie. L'enfant se mit à danser. Imaginez-vous ça, Marie, tout enfant qui se met à danser sur l'autel. Étrange scène. Un jour donc, accompagnée par sa mère et son père, cette petite fille de 3 ans franchit la porte du temple, puis toute seule, ainsi le veut la tradition juive, elle gravit les 15 marches qui conduisaient au parvis des femmes. On voit ça au Grand Séminaire. Si vous allez à la chapelle du Grand Séminaire de Montréal, 2065 Ouest rue Sherbrooke au métro Guy, c'est l'une des plus belles chapelles et églises du Canada, je crois, d'Amérique du Nord, c'est très très beau. Hein? Et alors dans le chœur, vous voyez justement cette présentation de Marie au temple, on la voit qui monte les 15 marches. Et vous pouvez aller à la messe là jusqu'à la fin de juin encore, le dimanche matin à 10h30, il y a messe au Grand Séminaire, métro Guy, 2065 Ouest rue Sherbrooke. Au sommet de l'escalier, Zacharie l'attendait, il a pris l'enfant dans ses bras, il l'a offert au Seigneur, puis, en pleine connaissance de la portée de son geste, la jeune fille s'est livrée tout entière à l'amour puis au service de Dieu. C'est ce qu'on raconte. Alors, l'éducation de la Vierge, comment s'est-elle faite? Sainte Anne, qui est maîtresse de maison, elle s'occupait évidemment de mille détails. Toute maîtresse de maison connaissant, tous les grands moments connaissant. Hein? Mais Joachim, lui, pendant ce temps-là, il veillait sur ses troupeaux, bien il travaillait à sa vigne. Alors elle préparait les repas, on peut imaginer ça facilement. Elle faisait tout le reste. Mais après la naissance de Marie, il y avait encore beaucoup plus de travail, mais aussi et surtout beaucoup plus de joie. Un enfant apporte la joie. Aucun des trois, Joachim, Anne et Marie, n'échappait évidemment à toutes les fatigues qu'imposaient surtout à cette époque les travaux. Aller chercher l'eau au puits, etc. C'est pas comme aujourd'hui, on a des robinets, hein, et quantité d'autres choses. Mais ils priaient ensemble. On est sûr qu'ils souffraient ensemble, mais aussi qu'ils riaient ensemble, qu'ils s'amusaient ensemble. Et ils se reposaient. Et aux yeux du monde, la vie de Sainte-Anne était aussi une vie où il y avait beaucoup d'actions très ordinaires, mais c'est Dieu qui lit au fond du cœur et qui voit dans l'âme d'une grand-mère de ce genre ce qu'il y a de grand et de beau, hein, dans son cœur, comme dans le cœur de nos grands-mères. Il voyait toute la somme d'amour qu'elle apportait dans l'accomplissement de toutes ses tâches d'épouse puis de mère, des tâches qui ne sont plus considérées tellement de nos jours. On croit qu'il est préférable d'avoir une femme d'affaires, une femme politicienne, une femme qui conduit un camion, etc., que des entreprises. Je ne suis pas toujours si sûr. Je me demande si la tâche d'une épouse véritable et d'une mère qui a plusieurs enfants et qui les éduque intelligemment, c'est pas la plus grande chose qu'une femme puisse faire, quitte à faire bien d'autres choses en dehors de son foyer aussi. Mais à temps partiel, peut-être, ce serait mieux. Je ne sais pas, une idée comme ça. Mais quand on regarde Sainte-Anne, alors qu'elle fait le lavage, qu'elle puise de l'eau à la fontaine, au puits, qu'elle coud, qu'elle apprête les repas, on comprend mieux la vraie sainteté, qui consiste avant tout à bien faire son devoir d'État, c'est tout. Hein. C'est ça, la sainteté. C'est pas les grandes choses, non. Une existence de chaque jour, toute de simplicité, là, faites de petites besognes inlassablement répétées, mais voilà, avec beaucoup d'amour et d'intelligence, mais voilà la vie de Sainte-Anne, l'intelligence naturelle des gens les plus simples. Hein. On peut dire que Sainte-Anne avait l'œil sur sa petite Marie, qui jouait sans doute comme les autres enfants. Elle danse à 3 ans, nous avait dit tout à l'heure le texte. Hein. Et puis, sans doute qu'elle lui posait des questions à Sainte-Anne, cette petite Marie. La prière venait interrompre toutes sortes de choses, parce qu'il y avait 3 fois chaque jour la récitation des psaumes et des bénédictions chez les Juifs. Et le jour du sabbat, le samedi, toute activité cessait, comme dans mon temps, moi, le dimanche, tout cessait, on n'osait même pas planter un clou. Par hommage pour la majesté de Dieu, par hommage pour la prière, l'état de prière et de contemplation dans lequel nous devions être, l'état de pacification du dimanche, comme eux, c'était le samedi, le sabbat. Monotonie patiente, peut-être, coupée seulement par des jours de grandes fêtes, qui étaient nombreux dans le calendrier juif, comme il était nombreux autrefois dans le calendrier catholique. Et ces jours-là, bien, il y avait grand rassemblement. Ou même on montait ensemble au temple, hein, pour prendre part aux cérémonies liturgiques. On peut imaginer cette petite famille qui partait comme ça, les trois. Et à part ces fêtes religieuses, bien, il y avait les mariages des parents, des amis, et puis quelques autres réunions de famille. Puis, mais il n'y avait pas autant de distractions qu'on peut imaginer aujourd'hui. Il n'y avait pas des festivals tout l'été, comme on en a à Montréal. Alors l'existence de Sainte-Anne, sa vie durant, c'est une vie simple, on peut imaginer. Et ces détails permettent peut-être de nous faire de Sainte-Anne l'image de ce qu'elle était dans sa vie de tous les jours. Sainte-Anne a-t-elle connu l'enfant Jésus sur la terre avant de mourir? On n'a pas de certitude à ce sujet. Toutefois, la majorité des spécialistes la reculent la mort de Sainte-Anne jusqu'après la naissance de Jésus. D'ailleurs, dans une de ses visions, la Sainte Mechtilde... Bon, j'aime pas tellement revenir à des visions, mais puisque c'est Sainte Mechtilde, je la cite. Sainte Mechtilde a demandé Dans une de ses visions, elle a demandé à la Sainte Vierge combien de temps Sainte-Anne avait vécu sur la terre. Et Marie lui répond, jusqu'après l'exil de Jésus en Égypte. De son côté, Anne-Catherine Emmerich dit dans ses révélations, enfin, révélations entre guillemets, mais c'est intéressant à lire Anne-Catherine Emmerich, hein, au siècle dernier. Ben, elle révèle que l'enfant Jésus avait 8 ans quand sa grand-mère est morte, quand Sainte-Anne est morte. Et que Jésus a assisté lui-même sa grand-mère dans ses derniers instants. On peut donc croire raisonnablement, écoutez bien ça, que Sainte-Anne a eu le bonheur de vivre jusqu'après la venue de Jésus et qu'elle a eu le privilège de connaître ce Jésus enfant et de profiter de sa présence pendant plusieurs années. Un ancien écrivain nous décrit Sainte-Anne se hâtant vers la crèche de Bethléem, soulevant l'enfant Dieu dans ses bras et le couvrant de baisers. Bon, mais passons. Et maintenant que Sainte-Anne a pu prendre son petit-fils dans ses bras, et qu'elle a eu la joie de l'embrasser. Oh, que je me souviens quand j'ai embrassé mon petit-fils pour la première fois. Quelle joie! On n'a pas idée du bonheur des grands-parents. Hein? Vous le savez, vous, les grands-parents. Hein? Quelle joie! Ben, elle a senti qu'elle pouvait mourir en paix. Alors, elle songe à quitter la terre. Il est difficile de mourir en meilleure compagnie que Sainte-Anne, imaginez. On peut penser là, qu'au soir d'une existence toute simple, elle était entourée de, évidemment, Jésus, de Marie, puis de Joseph. Alors, cette douce vieille Sainte-Anne a dû sourire à la mort qui s'approchait d'elle. Cette mort qui la prend par la main pour la conduire vers Dieu. On peut imaginer que son esprit de recueillement puis de prière, que sa soumission à la volonté de Dieu, sa disposition à se dévouer au bonheur des autres, son oubli de soi, sa force d'âme dans les épreuves. Ce sont quelques-uns des traits les plus marquants qui composent le vrai visage de Sainte-Anne, mère de Marie et grand-mère de Jésus. On peut imaginer tout ça. Et ça ressemble beaucoup, je le répète, à la plupart de nos grands-mères. Hein? Et que savons-nous de Sainte-Anne s'il est vrai que les évangiles ne nous rapportent rien de sa vie, ils ne nous révèlent même pas son nom. On sait pourtant que Sainte-Anne, c'est la mère de Marie, la grand-mère du Christ, comme je vous l'ai dit. Cela seul prend un sens pour nous, chrétiens. Et nous connaissons aussi et souvent avec certitude, semble-t-il, les principaux épisodes de la vie terrestre de Sainte-Anne. C'était recueilli, comme je vous ai dit, dans différents apocryphes. Hein? Apocryphes, ça veut dire que les textes de ces évangiles, entre guillemets, sont douteux. Ils sont pas dans la Bible. Ça remonte aux origines même du christianisme, comme le proto-évangile de Saint-Jacques, qui date de l'an 150 à peu près. Il y a aussi l'histoire des nombreux sanctuaires dédiés à Sainte-Anne à travers la chrétienté. Et comme je vous ai dit au tout début, bien, le plus célèbre dans le monde, soit dit en passant, c'est celui de Sainte-Anne de Beaupré, au Québec. Et oui, c'est le plus réputé. Le culte de Sainte-Anne remonte très loin. En Orient, au VIe siècle, vers 550, une église a été dédiée à Sainte-Anne, dans la ville de Constantinople, Istanbul aujourd'hui, au cœur de l'Église orthodoxe autrefois. C'est là qu'est le patriarche de tous nos frères orthodoxes qui sont comme l'un des deux poumons de l'Église. L'Église catholique d'une part et l'Église orthodoxe d'autre part. Une autre église existait à Jérusalem, bâtie sur le site même de son tombeau, c'est ce qu'on dit. Au Xe siècle, toujours en Orient, dans ce qu'on appelle l'Orient, 3 fêtes sont célébrées en l'honneur de la Mère de la Vierge, le 25 juillet, le 9 septembre et le 9 décembre. Vous remarquez que le 25 juillet, c'est la veille du 26, où on la fête, nous. Le 9 septembre, c'est le lendemain de la naissance de Marie. Puis le 9 décembre, c'est le lendemain de l'Immaculée Conception. En Occident, bien, on peut faire remonter le culte de la grand-mère de Jésus jusqu'au 8e siècle. Toutefois, c'est surtout au 12e que l'on trouve la mention d'une fête de Sainte-Anne. Et puis au 15e siècle, la fête du 26 juillet a même une vigile, c'est-à-dire une veille de préparation. Et c'est l'époque là où le culte, on peut dire, de la Sainte Vierge va inclure aussi celui de sa mère, Sainte Anne. C'est toute la famille, finalement, de la Sainte Vierge qui participe alors à ce grand privilège de Marie, Mère de Dieu. Il y a un moine qui s'appelait Trithème, qui a composé en 1494 De Laudibus Sanctissime Matris Annae, c'est-à-dire un livre de louanges à la Sainte Mère Anne. Et on trouve toutes sortes de choses comme ça, mais voici quelques dates importantes au sujet de la fête du 26 juillet. Si vous voulez en connaître la marche, c'est en 1484, donc il y a 500 ans environ, qu'un pape l'a approuvé pour l'Église universelle. Et puis, comme fête énorme, là, c'est depuis un peu plus de 100 ans. Dès les premiers temps du christianisme à Jérusalem, à l'endroit où, selon une ancienne tradition, Sainte Anne avait donné le jour à la Sainte Vierge, il y a une église qui a été construite en l'honneur de Sainte Anne, de l'aïeule du Christ. C'est le sanctuaire de Sainte Anne de Jérusalem. Je vous signale en passant que la cathédrale de Chartres, en France, est ornée de 6000 statues. Plus de 200 de ces statues racontent l'histoire de notre Seigneur, que ça commence par sa mère et ses grands-parents. Ses grands-parents sont là. Puis il y a le pèlerinage de Sainte-Anne-Dorée, où je suis allé en Bretagne. C'est magnifique. Je vous signale en passant que dans cette basilique de Sainte-Anne-Dorée, A-U-R-A-Y, eh bien, il y a de l'orgue qui se joue doucement. C'est sans doute une immense bobine qui se déroule. Et l'orgue est très doux et ça fait régner une espèce de silence dans cette église où il y a beaucoup de pèlerins. Les pèlerins n'osent plus parler trop fort parce qu'il y a ce doux orgue très, très doux qui... Oh, ça joue pas fort, hein? Et c'est des mélodies très belles. Et je vous raconte pas ce qui est arrivé à Sainte-Anne-Dorée. C'est un fermier, bon, qui a eu une apparition, etc. Ce qui est intéressant, c'est que depuis 1668, le premier sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré a été érigé en l'honneur de la Mère de Marie. Et des foules de pèlerins sont venus y prier. Qu'est-ce qui est arrivé là-bas, hein? Ce qui est de plus remarquable à Beaupré, près de Québec, ce n'est pas tellement le nombre incalculable des prières que des gens adressent à Sainte-Anne ou les prières en groupe qui ont été dites depuis des siècles. C'est la qualité de la foi des pèlerins. J'y suis allé plusieurs fois et j'ai été surpris comme la grande majorité des pèlerins prient, les parents avec les enfants. Ce n'est pas de l'énervement, de l'excitation et de la superficialité. Oh, d'accord, il y en a. Mais il y a beaucoup de gens qui prient vraiment. Hein. Et ces pèlerins-là, je pense qu'ils se sont mis en marche parce qu'ils ont cru à la puissance de Dieu. Puis, la puissance de Dieu comme Père, l'amour du Père, de Dieu notre Père, qui ne cesse de porter à son peuple. Et parce que ces pèlerins ont cru, ils ont trouvé le réconfort et l'espoir, hein, dans la promesse que Dieu a faite de ne laisser aucune prière sans réponse. Hein. Jésus l'a dit. Hein. Sans réponse, c'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement ce qu'on demande. On a plus. C'est une grâce intérieure de sérénité, de paix, de confiance, de sanctification que Dieu nous donne. C'est comme ça qu'Annette des Hôtels, sur son lit de grande paralysée, disait dans une entrevue que j'avais faite à Radio-Canada que le léger sourire qu'elle pouvait avoir, c'est à peu près tout ce qu'elle pouvait faire. Elle ne pouvait rien bouger. Et elle disait que la joie qu'elle ressentait, c'est qu'elle était si sûre que Dieu l'aimait. Et elle l'aimait tellement. Vous savez, quand on ne croit plus, c'est le désert. Quand on se révolte contre Dieu, c'est le vide. Mais quand, comme les gens qui vont à Sainte-Anne-de-Beaupré, trouvent dans la prière la bonté de Dieu malgré leurs infirmités, leurs maladies, ils ne sont pas guéris physiquement nécessairement. Certains le sont, paraît-il. mais sont guéris intérieurement. Et ils découvrent, comme Annette des Hôtels, que Dieu nous aime tellement qu'on peut l'aimer en retour et trouver la paix. Et parce qu'ils ont cru, les pèlerins ont donc trouvé réconfort et espoir dans les promesses que Dieu a faites de ne laisser aucune prière sans réponse. Pour le pèlerin de Beaupré, les guérisons opérées dans ce haut lieu du monde chrétien sont le signe et la preuve que le Seigneur est désireux de bénir et d'aider ceux qui l'invoquent par l'intermédiaire de Sainte Anne, la mère de Marie. On pourra se demander pourquoi se rendre dans des lieux de pèlerinage comme Sainte Anne de Beaupré, à l'oratoire Saint-Joseph, au Cap de la Madeleine, à Lourdes et à quantité d'autres endroits. Mais c'est que, encore plus que la foi puis l'espérance, c'est la flamme de l'amour de Dieu puis du prochain qui est ravivée, à mon sens, dans le cœur de millions de pèlerins. Ils trouvent une orientation nouvelle de leur vie. Oh, ça n'arrive pas à tout le monde, mais une grande partie dans la sincérité de leur cœur et la simplicité de leur regard. Parce que pour eux, la vie chrétienne devient à la vérité un voyage à ce moment-là, un pèlerinage vers la maison éternelle du Père. Et c'est là le sens et l'importance des grands lieux de pèlerinage. Et ça rappelle ce que Dieu dit à Abraham, le père des croyants. « Pars, va !» C'est dans cette montée qu'est toute la vie. La vie est une montée vers Dieu. Ce qui a rendu tangible au peuple pèlerin la bonté de Sainte Anne, c'est la suite ininterrompue des manifestations de sa bonté. La bonté de Sainte Anne. Elle ne peut être que bonne, c'est la grand-mère de Jésus. Vous direz, ah, c'est de la naïveté. Beaugrand Champagne est tombé dans la naïveté, mais non. Je me souviens d'avoir amené ma mère, impotente, en fauteuil roulant, au Cap de la Madeleine. Elle est revenue souriante d'avoir vu autant de fauteuils roulants. Elle a sympathisé avec des tas de femmes de son âge qui étaient réduites à cet état-là. Elle qui dansait, qui jouait du piano, qui était belle femme, etc., et qui était réduite à ça, qui était dépouillée. Il ne lui restait pas grand-chose. Elle était dépouillée. Mais à la place de tout ce qui l'embarrassait, Dieu avait pris la place. Dieu était là. Et c'est en reconnaissance pour une telle faveur qu'il y a donc une première chapelle qui a été érigée à Beaupré. Il y a plus de 3 siècles, à cause des bontés de Sainte-Anne. Et les premiers colons, nos ancêtres, à nous, qui sommes ici depuis des siècles, je m'excuse auprès des autres, Québécois, eh bien, les premiers colons voulaient remercier Sainte-Anne de les avoir sauvés des périls de l'océan Atlantique. Hein. Et dès le début, bien, il s'agit de faveurs d'une nature particulière. Hein. Des malades, des infirmes se disent guéris. On parle de guérisons miraculeuses. Hein. Et la première de ces guérisons est survenue en mars 1658, il y a près de 340 ans, donc, alors que l'on construisait la première chapelle, d'un monsieur Louis Guimont, G-U-I-M-O-N-T, ça vous rappelle pas qu'un prêtre, ça, qui célèbre la messe à Radio Ville-Marie, hein? Le père Guimont. Alors, ce perclus, Louis Guimont, a voulu mettre la main à la construction. Il traîne sur les lieux, il ramasse 3 petites pierres qu'il laisse tomber dans les fondations. Et Sainte-Anne n'attendait comme une bonne grand-mère que ce geste de prière bien humble, et à l'instant, Louis Guimont s'est senti délivré de son infirmité. Il n'était plus perclus. En 1665, donc 7 ans plus tard, on parlait déjà de tant de guérisons que c'est pas n'importe qui. La bienheureuse Marie de l'Incarnation du couvent des Ursulines de Québec pouvait écrire ces lignes remarquables à son merveilleux fils, Don Claude, qui était moine dans un monastère bénédictin. Elle lui écrit en 1665, « À 7 lieues de Québec, il y a un bourg appelé le Petit Cap, où il y a une église de Sainte-Anne, dans laquelle notre Seigneur fait de grandes merveilles en faveur de cette Sainte Mère de la Très-Sainte Vierge. On y voit marcher les paralytiques, les aveugles recevoir la vue, et les malades, de quelque maladie que ce soit, recevoir la santé. » Et à peine 2 ans plus tard, il y a l'abbé Thomas Morel qui publie un premier recueil des guérisons de Beaupré. Il écrit « Les peuples recourent à Sainte-Anne dans leurs besoins et reçoivent d'elle des secours singuliers. Comme nous le voyons dans les miracles qui sont opérés depuis 6 ans dans l'église de Sainte-Anne du Petit Cap, C'est Saint-Anne de Beaupré, quoi. Et puis, le bienheureux Monseigneur François de Montmorency-Laval, lui-même, qui en 1659 avait été fait premier évêque de cet immense diocèse de Québec qui couvrait quasiment toute l'Amérique du Nord, ça allait jusqu'au golfe du Mexique, le Québec dans ce temps-là, le Canada, eh bien, il n'hésitait pas à approuver la brochure de l'abbé Morel. Puis il disait, nous avons fait de ces merveilles un examen attentif, et nous approuvons qu'on les cite dans le monde entier, afin d'exciter par là la dévotion des fidèles envers la sainte aïeule du Sauveur et la mère de la Mère de Dieu. Mais de nouveau, en 1670, il a déclaré, ce qui nous a porté à agir, c'est la renommée de cette Église dans laquelle un grand nombre de miracles ont été opérés par l'intercession de sainte Anne. Alors, les prétentions modernes qui veulent que le miracle soit une fabrication d'imagination de gens simples et un peu bornés, que la science réussisse à expliquer tous les phénomènes miraculeux, finalement, que ces prodiges n'ont plus leur raison d'être dans un temps pas où les gens ont l'éducation qu'il faut pour accepter les vérités pour ce qu'elles sont en elles-mêmes, et non par une preuve qui vient de l'extérieur. Toutes ces prétentions d'aujourd'hui sont en évidente contradiction avec la façon dont Dieu a voulu communiquer au monde sa révélation. Jésus a fait des miracles. Bon, je sais bien qu'il y a des exégètes qui nous disent que c'est pas vrai. Tout ça m'ennuie éperdument. Qu'on mette en doute certaines choses, d'accord, mais pas tout. Un lit de malade ou une civière, c'est quoi? C'est le tremplin qui projette le malade dans les bras du Père. Les nombreux pèlerins qui sont retournés du voyage de Beaupré sans que leurs conditions se soient améliorées, je vous l'ai dit tout à l'heure, ont souvent eu sur les lèvres les paroles de gratitude. Pourquoi? Pour la foi plus profonde. Puis ce courage qui s'est renouvelé en eux, ils sentent ça jusqu'au fond de leur cœur. Ils ont appris au pied de Sainte-Anne qu'il fallait qu'il en soit pour eux comme il en avait été pour le Christ Jésus. On porte sa croix. C'est à l'heure de son agonie et de sa mort sur la croix que Jésus révèle tout l'amour de son Père. Il va jusqu'au bout. L'amour dépasse tout quand il est uni au cœur de Jésus, à ce cœur qui palpite d'amour. Puis il y a l'histoire, très touchante, de tant d'hommes et de femmes dont l'existence est pleine des faveurs de Sainte-Anne et dont la vie a été transformée parce qu'un jour, cette sainte des miracles leur a rendu visite. Cela aussi appartient à la vie de Sainte-Anne. Sainte-Anne, c'est une grand-maman. J'en profite pour saluer toutes les grand-mères. 2 mois avant la fête de Sainte-Anne, le 26 juillet qu'on l'a fête, bonne Sainte-Anne, ne nous oubliez pas dans nos misères. Venez vers nous. Approchez-vous de nous. Soignez-nous. Je vous remercie, Père, d'avoir choisi Sainte-Anne pour en faire la grand-mère de votre Fils. Je vous remercie, Sainte-Anne, pour toutes les manifestations de votre pouvoir et de votre bonté en notre faveur. Aussi pour tous les bienfaits spirituels et temporels que vous n'avez cessé d'accorder à tous ceux qui vous ont prié ici au Québec et dans les environs. Et je vous remercie pour votre merveilleux amour envers les malades et les affligés, pour en avoir guéri plusieurs et pour avoir révélé à tous la valeur de l'amour parfait au cru de leur souffrance. Que grâce à vous, Sainte-Anne, notre premier souci soit de répandre à travers le monde le règne d'amour et de paix de la très sainte Trinité. Amen.